Bonjour, vous écoutez le podcast de la commission Agriculture et Société, co-animé par Produits en Bretagne et Agriculteurs de Bretagne.
Nous sommes Baptiste et Mathieu, et dans chaque épisode, nous traitons, sous la forme d'une interview, un sujet d'actualité sur l'agriculture et l'alimentation.
Pour ce troisième épisode, nous vous proposons d'écouter la table ronde « Algues vertes, quel chemin collectif pour la Bretagne ?». Elle s'est tenue à l'occasion du colloque de la commission, le 6 juin 2023, au lycée La Ville-David de Quessois. Les échanges étaient animés par Cécile Pelletier. Bonne écoute.
Je vais inviter à me rejoindre Sylvain Balu, Jean-Luc Barbeau, Jean-Yves Piriou, Daniel Evin et Thomas Kouépel, si vous voulez prendre place. Jean-Yves Piriou, vous travaillez pour France Nature Environnement Bretagne. Vous avez travaillé à Ifremer pendant des années et que vous avez donc eu pas mal de l'occasion de fournir des rapports dès 1985 sur les algues vertes, des publications. Est-ce que je peux vous demander là, de nous faire un petit point sur les algues vertes, sur ce qui fait qu'elles deviennent menaçantes, les quatre leviers qui la rendent dangereuse, et comment effectivement on peut agir sur depuis 2017 et la mise en place du plan Algues Vertes.
Oui, bonjour tout le monde. Donc, je vais parler un peu de ce qu'ont fait les chercheurs scientifiques sur le sujet, puisque moi, j'étais à l'Ifremer. Et à l'Ifremer, on a débuté les recherches sur les marées vertes, en fait, en 1985. On était à deux chercheurs à cette époque-là, Alain Ménesgouane et moi-même. Vous connaissez peut-être Alain Ménesgouane, qui a écrit un livre sur le sujet. Et il y avait aussi le CEVA qui travaillait avec nous, Patrick Dion au CEVA, avant Sylvain Balu. Voilà, donc on a commencé à travailler et à cette époque-là, on ne savait pas trop d'où ça venait. Il y avait eu un rapport dans le temps par quelqu'un de l'ISTPM, Joël Kopp, qui disait que les algues vertes poussaient dans les fonds et puis étaient transportées avec des courants sur les rivages et tout ça. Donc on a voulu savoir exactement ce qui se passait. On a été chercher sur les fonds les algues vertes en plongée et on trouvait que ce n'était pas la même espèce que celle qui s'échouait sur les plages. Donc on dit bah, il n'y a pas de rapport entre les deux. Et en fin de compte, en analysant les algues qu'on trouvait sur les plages, on trouvait que tout le cycle se passait sur la même plage, en fait, d'une année sur l'autre, et qu'elles étaient alimentées par les rivières. Donc on a analysé aussi, est-ce que c'est l'azote, est-ce que c'est le phosphore, on a fait ça en bassin, sur le terrain, etc. Et on a trouvé que c'était le nitrate qui était l'élément déterminant, puisque le phosphore, on trouvait suffisamment dans le sédiment pour alimenter les algues vertes pendant 60 ans même. On a trouvé, il y a un organisme qui a trouvé, pour si on coupait tous les arrivées de phosphore sur les plages, on avait pour 60 ans encore d'alimentation dans le sédiment. Donc on peut pas toucher à ça, on peut pas enlever le sédiment. Donc c'est le nitrate, et le nitrate, ben les organismes...
Avant, c'est dans les quatre conditions que vous disiez, donc il faut un bassin un peu fermé.
Voilà, donc il y a les deux autres conditions, ce sont des conditions physiques, c'est qu'il faut un piégeage hydrodynamique, c'est-à-dire que les courants sont circulaires, si on veut, avec la marée, ça descend et ça remonte, et toujours au même endroit. Ça, on l'a trouvé aussi avec des mesures sur le terrain, avec des physiciens. Et l'autre condition physique, c'est la plage de sable à faible pente qui fait que les conditions sont idéales pour avoir la lumière, pour la photosynthèse et aussi pour chauffer l'eau au printemps et en été. Et donc le nitrate d'origine agricole sur ces plages, il faut aussi une arrivée. Il y a certaines plages où il n'y a pas d'arrivée de nitrate, il n'y a pas d'algues vertes, bien que les autres conditions physiques soient réunies. Donc, nitrate, il y a l'administration qui a cherché sur les bassins versants, mais d'où peut venir le nitrate? Et c'est eux qui nous ont dit, à cette époque-là, dans les années 80-90, que c'était entre 85 et 95% d'origine agricole, puisqu'on enlève ce qui vient par l'assainissement collectif, par l'assainissement non collectif, par les industries, etc. Tout s'est rejeté et connu, mesuré. Donc tout le reste, c'est du diffus agricole, rural.
Donc voilà. On arrivait un peu à définir les quatre conditions qu'il fallait pour ça. Maintenant, il n'y a pas qu'en Bretagne, hein, que la Bretagne n'est pas la seule région concernée par ce phénomène.
Non, il n'y a pas que la Bretagne. La Bretagne a connu quand même cette évolution dans les années 70 qui correspondait à la montée des concentrations de nitrates dans les rivières jusqu'en l'an 2000. Et puis maintenant, ça commence à baisser. C'est vrai qu'il y a d'autres régions. Il y a en Chine, par exemple. La Chine a le record du monde. Hein. Il y a des lagunes méditerranéennes, il y a la Baltique, etc. Il y a d'autres régions du monde qui sont touchées.
Ouais. Sylvain Ballu, je vais vous donner la parole si vous voulez bien prendre le micro. Je disais donc que vous étiez en charge de la surveillance des marées vertes, donc au Centre d'études et de valorisation des algues, qui est un centre qui a déjà 40 ans. On a vu que le phénomène finalement des algues vertes, on en a entendu beaucoup parler au début des années 2000, mais c'était un phénomène qui était déjà un petit peu connu. Quelle est la vocation de ce centre à l'origine, parce qu'il n'est pas que dédié aux algues vertes, hein.
Bonjour à tous. Le CEVA, effectivement, est un centre qui a été créé d'abord pour répondre à la problématique des algues vertes. C'est-à-dire qu'initialement, c'était une association qui s'appelait le CERA, qui était à vocation de trouver pourquoi il y avait ces... Enfin, d'abord, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces algues vertes qui s'échouaient massivement sur les plages déjà dans les années 80. Donc en 82, il a été créé. Et ensuite, c'est devenu le CEVA, donc un centre... plutôt dédié à la recherche à la fois de compréhension du phénomène des algues vertes. Donc on a une partie vraiment qui est restée environnement algues vertes et il s'est structuré avec un objet différent qui est maintenant aussi la valorisation des algues, mais aussi éventuellement l'approvisionnement en algues, donc le sourcing pour différentes filières. Et ça, en gros, tout ce qui est, on en parlera peut-être un peu par la suite, mais tout ce qui est valorisation des algues, pour l'instant, c'est beaucoup plus les autres algues que les algues vertes qui sont relativement peu valorisées. C'est plutôt les algues brunes et les algues rouges qui trouvent des applications industrielles actuellement. Donc le CEVA a toute une vocation à soutenir la filière algue dans son ensemble, donc plutôt avec un enjeu de valeur ajoutée pour les producteurs bretons il y a beaucoup de goémoniers qui ramassent des algues vertes et il y avait relativement peu de valeur ajoutée au niveau de la Bretagne. Donc il y a eu la création du centre aussi pour appuyer cette filière. Donc on a vraiment deux objets un peu différents. Pour ce qui est des algues vertes, elles ne sont pas énormément valorisées. On pourra peut-être en parler un peu par la suite.
Oui, parce que si j'ai bien compris, là on va parler de celles qu'on va stigmatiser. Mais effectivement, l'algue verte, a priori, peut aussi rentrer dans des considérations d'agriculture durable. Et voilà, plutôt en fin de table ronde, on va parler d'autres couleurs d'algues parce que nous sommes dans la diversité, donc on ne restera pas que sur l'algue verte. Est-ce que, voilà, monsieur Piriou a gentiment juste annoncé les quelques conditions, est-ce que vous pouvez vous prendre le temps de nous expliquer un peu le phénomène algue verte ces 30 dernières années ou même 20 dernières années et comment, alors je ne vous demanderai pas de détailler le plan algue verte, rassurez-vous, on va le voir avec les uns avec les autres, mais au moins nous dire en tout cas les leviers qu'on peut actionner pour faire diminuer ce phénomène-là, mais expliquer aussi pourquoi il ne peut pas disparaître du jour au lendemain.
Alors ça fait beaucoup de questions en une. Je vais essayer
Allez.
De... Alors, le phénomène, nous on le suit. Alors le CEVA a créé en 2002 des outils pour suivre le phénomène de façon le plus précise possible, de la façon la plus précise possible. Donc pour ça, on fait des suivis aériens et de terrain. Donc là, on est en 2023 dans la 22e année de suivi avec cette même méthodologie où on va faire des survols d'avril à octobre une fois par mois, marée basse de grands coefficients. On prend des centaines, des milliers de photos même et on va les géoréférencer. On va tracer sur les photos exactement les zones de dépôt pour pouvoir dire ce mois de mai 2023, on en attend, il y en a plus qu'à tel endroit ou il y en a moins que telle année. Donc on a des outils maintenant, des thermomètres précis pour pouvoir mesurer le phénomène et son évolution. Alors la mesure, l'objectif, ce n'est pas simplement de dire il y en a plus, il y en a moins. Ce n'est pas que, entre guillemets, la description du phénomène. Mais par cette description, en fait, site par site, on a pu mettre en évidence des paramètres clés alors qu'on connaissait dans l'ensemble déjà par les études antérieures. C'est-à-dire qu'on savait déjà que... J'ai entendu Jean-Yves en parler. Quand il y a plus de nitrates dans une année donnée, on va avoir plus de production d'algues vertes. Quand il y a une condition de sécheresse, comme en 2022, on voit certains sites qui s'effondrent. Hein. Alors, on part d'une certaine situation en début d'année avec pas mal d'algues éventuellement. Et puis ensuite, on a une décroissance très forte quand on a une sécheresse, puisqu'on aura moins d'apport de flux au niveau du littoral. Donc ça, c'est des choses, site par site, qui ont pu être décrites par ces outils. Et ce qu'on peut en dire maintenant, c'est que là, ces dernières années, alors on a des années, malheureusement, où on a eu des crises. Hein. 2017, il y a eu beaucoup d'algues vertes, 2019 également. Les dernières années, on en a beaucoup parlé parce qu'il y a eu des situations avec des apports qui ont été massifs sur le littoral, et notamment en baie de Saint-Brieuc, avec aussi des échouages, des putréfactions qui ont posé des problèmes importants localement. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a donc des oscillations qui sont très fortes. Alors, les oscillations, elles sont liées à deux choses. Il y a tout d'abord le fait que certaines années, on va avoir des démarrages qui sont très précoces. Alors, l'exemple qui a le plus frappé, et je pense à la baie de Saint-Brieuc, je me retourne vers M. Barbeau, mais on s'est retrouvé en 2017 avec des énormes quantités, déjà au mois d'avril, et même en réalité au mois de mars, on avait déjà plein d'algues partout. Ça, c'est des conditions un peu particulières annuelles qui sont liées au fait que l'année précédente, il y en avait beaucoup en baie. Et ensuite, on a eu un hiver très calme. Alors, quand on a un hiver très calme, quasiment pas d'hiver comme 2016-2017, on ne va pas du tout disperser les stocks. Et en réalité, on en a ramassé. Alors, sur Saint-Michel-en-Grève, ils ont ramassé en janvier, en février, 500 tonnes par mois. Enfin, parce qu'il y en avait comme en plein été. Donc, quand elles ne se sont pas dispersées, dès que la lumière revient au printemps et qu'on a du coup des conditions de croissance qui sont extrêmement favorables, ça explose. Donc, vous ne pourrez pas empêcher des petits morceaux d'algues vertes qui sont présentes dans le milieu au mois de mars, quand le printemps arrive. Vous n'empêcherez pas qu'il pousse. Alors même si on était à des niveaux de nitrate beaucoup plus bas qu'actuellement, on n'empêchera pas la croissance à cette période de l'année. En revanche, quand on aura des conditions de nitrate qui seront plus basses, et on l'a vu, alors par exemple en 2022, c'est la sécheresse qui a fait qu'il y a eu moins de flux qui arrivaient au littoral, et on a vu au moins sur certains sites les biomasses qui se sont effondrées entre le mois de juin où il y en avait beaucoup parce que l'année avait été précoce, et les mois d'été où il y en avait du coup beaucoup moins de production. Donc ça, on espère l'avoir tous les ans, une fois que les flux seront tous les ans plus bas parce que les concentrations seront plus basses. Pour l'instant, c'est un peu la météo qui nous fait varier les apports de flux d'une année sur l'autre. Donc, parce que la météo, là maintenant, s'il ne pleut pas, ça fait 3 semaines qu'il ne pleut pas, s'il continue à ne pas pleuvoir, les débits qui sont déjà en train de chuter vont continuer à chuter. Il y aura moins d'algues vertes. Alors on sera content qu'il y ait moins d'algues vertes, mais au niveau agricole, on aura quelques soucis puisque déjà, on a une sécheresse dans les sols qui est bien amorcée.
Ces curseurs-là, donc les flux, les conditions météorologiques, plus les indicateurs de changement climatique, tout ça, c'est des curseurs que vous apprenez à comprendre. Est-ce que ça permet aussi d'anticiper ou est-ce qu'on subit ?
Alors nous, on anticipe. Alors on essaye d'anticiper, c'est-à-dire qu'on essaye de dire aux collectivités, là, cette année, on peut s'attendre à, mais malheureusement, peut-être heureusement pour certains aspects, mais malheureusement, la météo souvent va nous brider parce que on a une connaissance à très court terme en fait des conditions. Là, on nous annonce peut-être des orages pendant quelques jours. On aura un peu d'eau, mais à tel endroit, pas à tel autre. Donc, savoir exactement les flux qu'on aura, enfin, donc les débits qu'on aura dans, ne serait-ce que dans une semaine ou deux. Moi, j'en suis, pour l'instant, je lis peut-être pas assez bien la météo, mais j'en suis pas encore capable. Donc, on n'est pas capable de faire des prévisions à beaucoup plus long terme. En revanche, c'est vrai qu'en fonction des qualités de l'hiver, en fonction de ce qu'on a observé l'année précédente et de l'hiver plus ou moins tempétueux, on arrive à prédire le fait que, enfin plusieurs mois à l'avance, le fait que sous réserve que l'hiver se prolonge de telle ou telle manière, on aura à ce moment-là une prolifération très précoce ou très tardive. Donc ça permet éventuellement aux collectivités de se préparer un peu. Mais donc sur cette information à moyen terme sur l'évolution, alors là on sait malheureusement, je vais être... Ce n'est pas un oiseau de mauvaise augure, mais on sait maintenant au mois de mai que quand il y en a dans un site, comme par exemple en baie de Saint-Brieuc, à cette période de l'année, vous aurez beau avoir un peu plus de sec ou un peu moins de sec dans les 2-3 semaines qui viennent, ça va pousser. Là, il y a beaucoup de lumière, les apports par les cours d'eau sont encore importants, ça ne va pas se stopper d'un jour à l'autre. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est dans un mois ou un mois et demi, si les conditions de sécheresse, donc de débit, continuent à baisser, à ce moment-là, on va avoir des algues vertes qui ne trouveront plus assez de ressources pour se multiplier. Et en fin de saison, on en aura moins. Mais on ne peut pas avoir des prédictions à beaucoup plus long terme. Alors, à plus long terme, c'est les notions de changement climatique, peut-être que vous avez en tête. Alors, à plus long terme, ça a été un peu analysé avec l'INRAE. On a essayé de faire des modélisations de ce que ça donnerait. Alors, le changement climatique, par l'augmentation des températures de l'eau, va plutôt dans le sens d'un démarrage plus précoce des proliférations, parce que si les eaux sont plus chaudes en hiver, la prolifération pourrait être avancée sur le début du printemps. Donc si on a 12 degrés, on va dire au 15 février au lieu d'avoir ça au 15 mars, on va gagner en démarrage de prolifération. Mais après, il y a tous les autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. C'est la fréquence des tempêtes, l'intensité des tempêtes qui vont pouvoir changer aussi des choses. Et ensuite, c'est tout ce qui est changement des régimes hydriques au niveau des bassins versants. Donc c'est clair que si on a des températures plus importantes et qu'il y a du coup plus d'évapotranspiration, moins de débit dans les cours d'eau, au niveau des étiages, ça va plutôt dans le sens d'une diminution des proliférations. Mais là, on est sur des pas de temps qui sont assez longs et on sait aussi que si on a ce genre de changement, enfin Céline Rey qui le disait, ça aura des impacts aussi très importants sur l'agriculture, sur les systèmes agricoles. Est-ce qu'on fera encore du maïs ou du sorgho? Enfin bon, je prends des exemples que je ne maîtrise pas du tout, mais il y aura des changements plus importants que simplement plus de pluie, moins de pluie dans les cours d'eau, enfin, et donc de débit dans les cours d'eau.
Toutes ces prévisions, ces indicateurs, vous les fournissez, entre guillemets, aux collectivités qui ont, j'imagine, des espèces de cellules de crise algues vertes, de manière à savoir, parce qu'une des premières actions possibles est quand même le ramassage. La collectivité, le centre d'études, le CEVA, là, il est justement, entre guillemets, coopté et dirigé par les collectivités en partie. C'est des indicateurs dont ils ont besoin pour pouvoir agir.
Alors nous, effectivement, on va donner nos analyses en temps réel. Dès qu'on fait un vol, on essaye de livrer ce qu'on a vu de la prolifération et ce qu'on pense qui risque d'advenir dans les mois qui viennent. Donc je vous ai dit, à très court terme, on peut dire, ben voilà, s'il y en a déjà plein sur tel site à la mi-mai, à la mi-juin, malheureusement, on sait qu'il y en aura. Enfin, et en revanche, au 15 juillet, s'il y en a beaucoup à cet endroit, mais que les débits sont déjà bas et que la condition météo reste plutôt à la sécheresse, ça va diminuer, etc. Donc on arrive à donner un petit peu ces éléments-là. Et parfois, c'est vrai que c'est utilisé par les collectivités pour anticiper des moyens de ramassage. Hein. Certaines collectivités, on a pu leur dire que cette année, on s'attendait à avoir beaucoup d'algues vertes en début de saison. Et à ce moment-là, plutôt que de commencer les marchés avec les prestataires pour faire le ramassage, ils peuvent avancer à ce moment-là les marchés ou les contacts avec les... Enfin, se préparer au niveau aussi des plateformes de traitement ensuite des algues pour les composter, par exemple.
Alors Jean-Luc Barbeau, je me retourne vers vous en tant qu'élu élu municipal depuis 1995. Donc, vous avez effectivement un certain nombre d'expériences et d'années d'expérience de cette crise des algues vertes. Est-ce qu'effectivement, vous recevez... les indications comme ça du CEVA qui vous permettent d'anticiper déjà le premier levier, le ramassage?
Bah oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, les informations du CEVA nous sont transmises, mais aujourd'hui, sur les baies algues vertes, en particulier sur la baie de Saint-Brieuc, il y a des gens qui passent tous les jours pour voir l'état de la marée verte, l'état des échouages, et à partir de là, on démarre les phases de ramassage et où on peut ramasser, parce que le problème aujourd'hui, sur les 10 dernières années, on est sur des moyennes en baie de Saint-Brieuc de 6500 tonnes échouées et ramassées, mais tout n'est pas ramassé et tout ne s'échoue pas. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui dure depuis fort longtemps et on s'est adapté. Aujourd'hui, on peut traiter ces algues échouées et ramassées, mais c'est vraiment... On n'a pas eu recours à l'épandage agricole. L'année dernière, il n'y en avait pas. L'année d'avant, on a réussi à passer. Mais des fois aussi, la station de traitement ne suffit pas et il faut qu'on trouve des terres agricoles pour pouvoir épandre ces algues vertes.
Alors, est-ce que justement, vous pouvez me parler du plan algues vertes qui a déjà eu deux phases de passé? Là, on a rentré dans la troisième phase. Donc, les pouvoirs publics ont mis en place ce plan algues vertes suite aux événements 2009, 2010, 2011. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est sur la commune? J'ai quand même oublié de le dire, même si c'est écrit, que vous êtes élu Europe Écologie Les Verts à Lamballe, Terre et Mer, en charge des transitions écologiques.
Hein. Je vais rectifier parce que oui. Je suis adhérent Europe Écologie Les Verts, mais je n'ai jamais été élu en tant que... Europe Écologie.
Ah, en tant que... Voilà. Vous êtes élu. En tout cas, vous êtes président de la commission locale de l'eau du pays de Saint-Brieuc aussi.
Voilà.
Et vous êtes là avec ces doubles casquettes. Donc, le plan algues vertes sur votre territoire, on en est à la troisième phase. Vous pouvez nous parler un petit peu des améliorations quand même qui sont mises en place au long cours Parce qu'il n'y a pas que le ramassage, maintenant il faut aller à la source.
Alors sur les plans algues vertes, on est plusieurs à pouvoir en parler, hein, puisque Daniel, Daniel a travaillé dessus. Thomas est aujourd'hui dans le comité de pilotage avec d'autres qui sont présents dans la salle. Donc simplement vous dire que la commission locale de l'eau, sur les deux premiers plans, 2010 et 2017, était comité de pilotage de ces plans algues vertes. Aujourd'hui, sur le troisième plan algues vertes, 2022-2027, elle n'est plus comité de pilotage. Là, aujourd'hui, il y a un comité de pilotage spécifique, et c'est tant mieux, parce qu'aujourd'hui, dans ce comité de pilotage, il y a les décideurs administratifs, politiques et économiques qui sont aux manettes, et donc c'est aussi bien, parce que du temps que c'était la commission locale de l'eau, bien sûr, il y avait des gens dans la commission locale de l'eau qui avaient quelques responsabilités, mais ils n'étaient pas décideurs, et on tournait beaucoup en rond, et voilà, donc c'est mieux comme ça aujourd'hui.
Donc en quoi il consiste ce plan algues vertes ?
Alors le plan algues vertes, il est assez complexe. Moi, je vais pas rentrer forcément dans le détail, mais on sait depuis le départ que de toute façon, c'est toutes les fuites d'azote qui vont au milieu naturel qu'il faut essayer de stopper. Voilà, donc aujourd'hui, sur la baie de Saint-Brieuc, le bassin hydrographique de la baie de Saint-Brieuc, c'est 110 000 hectares. Le réseau hydrographique, c'est environ 4800 km, dont 1800 km de cours d'eau. Donc il ne faut pas que les fuites d'azote aillent dans ces milieux naturels parce qu'ils vont directement après dans la baie et alimentent les marées vertes. Donc c'est réduire à tout prix en faisant évoluer parce qu'il y a déjà eu des choses de fait. Hein. Il faut dire que sur la baie de Saint-Brieuc, entre les années 2000 et aujourd'hui, on est entre 45 à 50% d'azote en moins arriver dans la baie. Donc les efforts des agriculteurs se mesurent. Aujourd'hui, depuis quelques années, on est sur un palier. Les dernières tonnes et les derniers milligrammes seront durs à aller chercher. Mais il y a encore, il y a encore des possibilités. Aujourd'hui, voilà, c'est la première pierre, c'est ça. C'est aussi faire en sorte que gérer tous les fonds de vallée, protéger encore plus les zones humides, parce qu'aujourd'hui, les zones humides sur un territoire de 110 000 hectares, Baie de Saint-Brieuc, on a 11 500 hectares de zones humides. Donc leur pouvoir épurateur et régulateur est incontestable. Donc ça, c'est aussi utile dans la lutte contre les nitrates arrivant en baie. Et voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Bon, il y a encore des zones humides qui sont cultivées à l'échelle du bassin Baie de Saint-Brieuc. Il y a encore environ 1000 hectares de zones humides qui sont cultivées, mais ça, on peut le comprendre. Il y a des exploitations. La part de zones humides est telle qu'ils ne peuvent pas non plus complètement inverser la tendance. Donc, il faut un peu de temps pour que tout ça s'adapte. Donc, voilà les grandes lignes. Pour moi, c'est limiter les fuites d'azote au milieu. Ça, c'est déjà une chose. Et puis faire en sorte que la fonctionnalité des zones humides, tout ça soit préservé, que les fonds de vallée soient gérés aussi pour éviter le contact. Voilà, puis derrière ça, je le dis souvent en tant que président de la commission locale de l'eau, on travaille bien sûr sur les nitrates, mais quand on travaille sur ces sujets-là, on travaille aussi sur le phosphore, on travaille aussi sur l'érosion, on travaille aussi sur les pesticides, alors on a parlé du plastique, on n'y travaille pas, mais il faudrait s'y intéresser de très près, les microplastiques. Hein. Ça, il va être temps de s'en occuper. Donc voilà un peu le panorama, sans rentrer dans les détails, parce que je pense qu'il y a des gens ici qui peuvent peut-être rentrer plus dans les détails que moi.
Si, ce qui était intéressant, vous me disiez au téléphone, et ça vient faire le lien tout de suite avec ce que Jean-Pierre Renaud disait tout à l'heure, ce retour à la terre et à se préoccuper de l'état de la terre et de la société au service de la terre. Vous me disiez aussi qu'en fait, il fallait revenir à un certain bon sens aussi dans le terme de nos paysages, de nos zones humides, des talus, qui avaient aussi finalement un aspect très naturel qu'il fallait retrouver, qui pouvait aussi permettre de réguler de manière notoire quand même ce niveau d'azote.
Oui, parce que je le dis et je le dis toujours, mais les marées vertes, les algues vertes, c'est une transition écologique qui n'est pas aboutie. Donc derrière, on a plein de choses à faire encore, et c'est vrai que on ne pourra pas le faire sans les agriculteurs, parce que sur les 110 000 hectares, il y a 67% de cette surface, c'est de la terre agricole. Il n'y a que 18% d'artificialisé et 15% d'espace naturel. Donc sans les agriculteurs, que ce soit sur la ressource en eau, que ce soit sur le stockage du carbone, que ce soit sur l'arrêt de l'effondrement de la biodiversité, on ne fera pas sans eux. C'est juste pas possible. Donc voilà, c'est... Alors comment faire ça, c'est autre chose, mais voilà.
Ça fait plaisir à entendre. Daniel Evin, les agriculteurs, on ne fera pas sans eux. Je veux juste rappeler que vous étiez donc présidente d'Agriculteurs de Bretagne. Maintenant, vous êtes membre du CA, mais vous étiez agricultrice surtout avant tout. Et vous étiez agricultrice en 2009, quand il y a eu le drame de ce cheval mort par les algues vertes. Je veux juste rappeler quand même, que vous nous rappeliez un petit peu l'état, entre guillemets, de sidération que ça a pu emmener dans le monde agricole. Parce que pour tout le monde, cette menace et cette toxicité de l'algue verte était quand même peu connue. Et il y avait peu de choses qui avaient été publiées, en tout cas pour le grand public et le monde agricole, sur la toxicité aussi forte de l'algue verte. Vous avez, en 2009, vous étiez à ce moment-là agricultrice aussi. Hein.
Oui, bonjour à toutes et à tous. 2009, j'étais encore agricultrice, je ne suis plus. J'étais élue à la Chambre d'agriculture à ce moment-là et je pense que certains ici se rappellent de cette période, de cette année-là, cet été-là où, en effet, la mort du cheval dans la baie de Plestin a été certainement un électrochoc professionnel, mes collègues s'en rappellent, parce que de quelque chose qui était connu, d'un phénomène qu'on connaissait, qui était en partie étudié depuis très longtemps, on s'est retrouvé, la profession agricole, mais pas que, justement, à devoir aller très vite dans des propositions qui visaient ou qui devaient viser à ce qu'il y ait moins d'algues vertes dans les différentes baies qui étaient concernées. Une fois qu'on a dit ça, on peut éventuellement penser que c'est assez, assez simple. Mais au final, ça remettait. Il fallait tout remettre à plat et on partait d'une copie blanche, puisqu'il fallait surtout imaginer ce que nous, on souhaitait, des projets de territoire, des projets qui ne pouvaient être sur les 8 baies concernées, et notamment à ce moment-là, des baies expérimentales, dont celle de Saint-Brieuc, qui ne pouvaient être que des projets de baies ramenés aux sites et aux productions qui existaient sur ces sites-là, à l'économie qui existait dans ces lieux-là. C'est-à-dire que ça ne pouvait être que local, ça ne pouvait être que, pas une réglementation justement, mais des projets de territoire qui visaient à une excellence environnementale. On peut peut-être maintenant dire ce mot-là. Donc, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Mes collègues tout à l'heure ont parlé de réglementation, ils ont parlé de contrôle. Et ce qu'on ne voulait pas, les responsables professionnels de l'époque, ce qu'on ne voulait pas à ce moment-là, c'était une réglementation supplémentaire, parce qu'on avait aussi l'historique de tous les travaux qui avaient été faits dans le cadre agricole, ce qu'on appelait les comités professionnels agricoles, et qui était le travail fait autour des bassins versants pour justement déjà commencer à limiter les apports de nitrate dans les cours d'eau. Donc on avait une expérience, on savait qu'il fallait qu'on pousse des curseurs beaucoup plus loin, et on n'avait surtout pas envie de réglementation, parce que pour nous, la réglementation, c'était de toute façon pas la solution. Il fallait qu'on fasse de la dentelle, il fallait qu'on travaille à l'exploitation, il fallait qu'on travaille à la parcelle, Jean-Luc l'a dit, et ça, ce n'était pas compatible avec une réglementation qui s'appliquait uniformément sur toutes les exploitations, et peu importe ce qu'était l'exploitation. Donc, quand on dit copie blanche, c'était complètement ça, et quand on dit local, c'était des réponses locales. Ce qui s'est passé à Saint-Brieuc n'était pas la même chose que ce qui s'est passé dans le Finistère ou ce qui s'est passé à Plestin. Et là, c'était une très grande aventure. Moi, j'ai toujours dit, et Jean-Luc m'a entendu le dire plusieurs fois, que cette thématique des algues vertes, c'est d'abord une aventure humaine. C'est-à-dire, c'est des personnes qui, à un moment, sont capables de se mettre autour d'une table d'une commission locale de l'eau, qui sont capables, avec la connaissance qu'ils acquièrent ensemble, et non pas forcément arriver avec leur certitude tous les uns et les autres, ils acquièrent une connaissance commune. C'est le gros travail qui a été fait dans toutes ces années de commission locale de l'eau. C'est ce qu'ils sont capables de mettre ensemble, ce qu'ils sont capables de négocier ensemble et ce qu'ils sont capables de signer ensemble. Et ça, moi, je ne l'ai jamais connu Et pourtant, on a eu beaucoup de dossiers. Je parle en faisant un clin d'œil à André Sergent. On a eu énormément de dossiers agricoles et des dossiers très compliqués. Moi, je n'ai jamais vécu un dossier avec une telle intensité humaine. Parce qu'effectivement, quand on était en réunion ensemble, on n'était pas d'accord. Vous imaginez même pas à quel point on n'était pas d'accord. On a eu des mots qui, des fois, étaient terribles. On a eu des antagonismes, des incompréhensions qui remettaient tout en cause. Ça remettait en cause éventuellement les exploitations. Nous, on est arrivés, je donne cet exemple-là parce que moi, il m'a toujours marqué. On arrivait, nous, en réunion commission locale de l'eau, avec des bassines d'algues vertes qui avaient été posées devant la porte. C'est pas facile, hein, après, quand il faut travailler dans ce cadre-là. Et ben, on est passé au-dessus de ça. On a construit une intelligence collective et on a construit un savoir commun. Et à partir de là, on a imaginé... Alors, je dis un catalogue parce que dans ces années-là, on avait un catalogue de propositions qui pouvait s'appliquer à toutes les exploitations qui étaient sur le bassin versant. J'étais en production porcine, évidemment que je n'avais pas les mêmes possibilités que mes collègues qui étaient en production laitière et pas la même possibilité que celles qui étaient en production maraîchère, c'est une évidence. Donc c'est ça qu'on a vécu et je crois que c'est aussi ça qui est encore vécu aujourd'hui. Et je pense que ce qu'on peut retenir de ça, c'est qu'il ne pourra pas y avoir d'évolution des territoires et notamment effectivement d'évolution autour de cette thématique environnementale liée aux algues vertes que s'il n'y a pas, que s'il n'y a pas de compréhension mutuelle. Et je rage, moi, et vous le savez parce que certains réagissent comme moi, je rage quand ce sont des personnes extérieures, des associations extérieures, des médias nationaux qui viennent nous dire comment faire dans un temps qui logiquement devrait être très court alors que nous on travaille que sur du temps long et sur les algues vertes. Jean-Luc me corrigera, mais je crois que c'est 10 ans le temps de réponse du milieu. Quand on nous donne des injonctions comme ça qui viennent de l'extérieur, c'est parce que les personnes là, elles ne connaissent pas le sujet, elles n'ont pas la culture qu'on a acquis en commun autour de la problématique. Donc elle n'apporte que des réponses et c'est des dogmes et ça nie tout le travail qui est fait localement. Bon, j'arrête là parce que...
Non, mais justement, qu'est-ce qui a été le plus dur à ce moment-là? Ça a été la stigmatisation de toute la profession. Oui. Ou c'était le fait de se dire aussi, on part de zéro en connaissance. Et indirectement, on a été aussi un maillon de la chaîne de ces drames. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué?
Ce qui était le plus compliqué, c'est la stigmatisation. Parce que ce qui a été dit, c'est que le phosphore, les baies, les aspects physiques, c'est là, on n'y peut rien. Le facteur limitant, c'est le nitrate. Le nitrate, il est effectivement essentiellement agricole. Donc la résolution de la thématique algues vertes, elle passe par un grand volet agricole. Et donc, de ça qui pouvait être vu et que nous, on doit voir comme étant... On est ceux qui peuvent solutionner le problème. On a été cantonné par beaucoup de ceux qui ne connaissaient pas le sujet, car vous êtes le problème. C'est ça qui était difficile, et c'est ça, je pense, que certains encore de mes collègues portent de manière difficile. Donc, faire bouger, faire évoluer, faire changer les pratiques, s'améliorer, gagner encore des milligrammes de nitrate, ça ne se fait pas que dans la stigmatisation et dans le rejet de la faute sur une partie de la population. Jean-Luc l'a dit, il faut faire avec les agriculteurs, il ne faut pas faire contre. Or, ceux qui ne connaissent pas le sujet et qui sont ceux qu'on entend le plus... On a parlé tout à l'heure de certains films ou de certaines BD ou de certains livres qui sortent. Ceux qui en parlent le plus, qui en parlent le plus violemment, ne connaissent pas. Et moi, je leur nie vraiment le droit de parler de nous comme ça. Je suis désolée, vous savez que je... Mais parce que c'était quelque chose d'extrêmement violent. Et je pense que ça peut l'être encore.
En tout cas, l'idée, là, c'est de prouver que ce n'est pas un sujet tabou et qu'il n'y a pas une omerta imposée sur la question des algues vertes.
Non, surtout pas. surtout pas.
Thomas Coëpel, je rebondis sur vous, parce que la stigmatisation, elle a été aussi sur l'agroalimentaire. Vous êtes président du Gouessant, donc une coopérative tout de suite ciblée dans ces cas-là. Vous disiez qu'au départ, dans les plans algues vertes, c'était entre guillemets facile d'aller chercher effectivement la baisse de ces taux de nitrate, parce qu'il y a eu tout de suite des choses qu'on pouvait mettre en place. Et comme vous disiez, M. Barnoult, tout à l'heure, maintenant, c'est plus difficile d'aller chercher les derniers pourcentages, de faire encore baisser cette tendance-là.
Oui, effectivement. Donc, lorsque les premiers contrats ont été signés avec les agriculteurs, on a pu tout de suite travailler sur des méthodes très simples à mettre en place et qui ont donné tout de suite leur résultat, puisqu'on a vu, et on le voit encore aujourd'hui, les taux de nitrate qui diminuent quand même fortement dans nos rivières, et c'est tant mieux. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut mettre en avant, parce que les agriculteurs, ils ont aussi besoin d'entendre que les efforts qu'ils font payent. Ils le font pour eux-mêmes, ils le font pour la société, ils le font pour tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le problème des marées vertes, c'est que c'est vraiment le nœud au milieu de la figure, quoi. On le voit parce que c'est visible, surtout en Baie-de-Saint-Brieuc. Et puis ça devient le marronnier chaque année, parce que quand les journalistes ne savent pas quoi dire, ils viennent au mois de mai et ils parlent des algues vertes. Et donc il y a un moment, c'est vrai que les agriculteurs, ils en ont marre, parce que le travail qui est fait, dans l'ensemble, il y a 95%, je crois que les premiers plans, il y avait 93 ou 95% des agriculteurs qui avaient signer les chartes, et donc qui s'engageaient sur des nouvelles techniques de travail, soit dans les champs, soit dans les élevages, soit dans les pendages. Et donc ça a été très mal perçu. Donc le travail a continué, parce qu'aujourd'hui sur le troisième plan, on part pas de zéro, et chaque fois on affine les techniques pour améliorer les techniques d'élevage, pour diminuer les fuites au niveau de nos cultures, parce qu'aujourd'hui l'azote, ça coûte cher, avec la crise énergétique, on le voit bien, ça coûte cher. Donc tout l'azote qu'on peut conserver dans les champs, c'est de l'azote en plus pour les cultures. Donc il faut absolument éviter ces fuites-là. Alors on les évite de plusieurs façons, hein. La première, c'est d'en mettre moins. Donc il faut être plus efficace dans nos techniques de travail. Donc on est plus efficace en ce qui concerne les épandages d'effluents, on est plus efficace avec les techniques qu'on va utiliser, avec le matériel qu'on va utiliser. Quand on regarde aujourd'hui les tonalisiers, c'est vraiment, c'est que de l'électronique embarquée avec des techniques, on a aujourd'hui, c'est technique, mais c'est des rampes à patins, des épandières, des trucs qui sont vraiment qui nous permettent d'apporter la bonne dose au bon endroit à la plante. On est plus efficace aussi sur nos engrais minéraux, avec aujourd'hui une aide, ce qu'on appelle les OAD, les outils d'aide à la décision. On prend appui sur tout ce qui est satellitaire pour ensuite envoyer les informations au niveau de nos outils qui vont épandre les engrais de façon à apporter la bonne dose au bon endroit. Peut-être par endroit, mettre un peu plus parce que le potentiel du champ est plus important. Et puis là où il y a des cailloux, où ça pousse un peu moins bien, on en met un peu moins. Donc voilà, les éleveurs font le travail. Les éleveurs font le travail. Et c'est vrai que quand on entend aujourd'hui ce qui se passe à l'encontre du monde agricole, où on serait presque de trop dans la campagne, hein, limite il n'y aurait pas d'agriculteurs en Bretagne, ce serait peut-être un peu plus sympathique. Et ben les éleveurs, c'est quelque chose qui prennent, c'est viscéral, quoi, ça fait mal à entendre. Alors nous, au niveau des coopératives, on est là pour les accompagner. Alors on est toujours les vilains petits canards dans la campagne, hein, parce que faut toujours trouver un bouc émissaire, et c'est vrai que les coopératives remplissent très bien leur mission à ce niveau-là. C'est tellement facile de taper sur nous, puisque de toute façon, on sait une chose, c'est qu'on partira jamais. Nous, l'inconvénient par rapport à des boîtes privées, c'est que si vous tapez sur une boîte privée, à un moment, ils s'en vont. Hein. Ça a été dit tout de suite avec le cas de Liffré. Vous avez vu, monsieur Le Duf, il n'a pas pris, ça a duré 10 ans. Mais il y a un moment, il dit, moi, puisque vous ne voulez pas de moi, je m'en vais. Or, nous, coopérative, on restera là. puisque de toute façon, c'est des entreprises qui sont issues des agriculteurs, pour les agriculteurs et dirigées par les agriculteurs. Donc c'est facile de taper sur nous parce qu'on sait que de toute façon, on restera là. Mais notre travail aujourd'hui, on ne nie pas la responsabilité du monde agricole sur cette question des algues vertes. C'est pas ça le problème. Il y a un temps de discussion au niveau de la clé, il y a eu des temps de discussion. Et une fois qu'on est arrivé à un consensus, et bien notre travail à nous, coopérative, c'est de faire évoluer les pratiques de nos agriculteurs, de façon à ce que collectivement on arrive à améliorer les conditions pour que demain, eh ben, ces algues vertes là, ce soit une histoire finie quoi, et qu'on n'en parle plus quoi, et qu'on passe à autre chose, parce que il y a des sujets qui sont quand même, je dirais pas plus importants, mais sur lesquels on arrivera à trouver un large consensus et qui pourront nous permettre d'aborder un peu plus sereinement les années qui arrivent, parce que on va encore demander beaucoup 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 de choses au monde agricole pour demain quoi.
Vous me disiez, faut pas que les éleveurs ne doivent pas culpabiliser, sinon en fait certains auront envie de partir quand même. Les coopératives seront peut-être là, mais voilà. Et puis surtout, vous m'expliquez que vous, quand vous vous êtes retrouvés à travailler sur ce sujet-là, vous avez aussi découvert la complexité du sujet. Enfin, on l'a vu, en quelques mots, c'est compliqué. Et messieurs plus scientifiques le savent mieux que moi. C'est aussi le besoin de faire monter en connaissances, en compétences, en formation aussi les agriculteurs, pour, au lieu de se concentrer sur la culpabilité, et d'entendre que ces messages-là, pouvoir répondre aussi de manière très, très factuelle, très concrète, très terrain.
Oui, alors la culpabilisation, là, alors peut-être qu'on est peut-être paranoïaque, hein, mais on est sûrement paranoïaque. La culpabilisation, là, dans une exploitation, étant donné qu'on est quand même sur des systèmes très polyculture-élevage, donc on a la partie élevage et la partie culture. Donc, et quand on voit tout ce qui se passe avec le bien-être animal, avec les histoires d'antibiotiques, enfin, avec les pesticides, enfin, il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets sur lesquels aujourd'hui, le monde agricole est montré du doigt et on lui demande de faire. Il y a des injonctions qui sont faites par plein de gens pour améliorer les choses. Voilà, on ne veut plus voir ceci, on ne veut plus voir cela. Et ça n'empêche pas que ce que disait tout de suite Olivier Cinquin, c'est que ça n'empêche pas qu'on importe quand même ce qu'on ne veut pas chez nous. Hein. Ça, c'est, et ça, moi, je trouve ça intolérable, mais bon. Et donc, le monde agricole, effectivement, je trouve ça extrêmement culpabilisant, parce que c'est des sujets qui sont très compliqués, très complexes. Quand on est chez soi, c'est très facile, ou quand si on lit la presse, c'est très facile de dire, ben ouais, c'est simple, voilà, plus de nitrate, plus d'agriculture, et le problème est réglé, quoi. Ou alors, on va faire que du bio, puis problème réglé, quoi. Ou alors on va mettre tout en herbe et puis problème réglé quoi. Mais le problème c'est que ça marche pas comme ça quoi. Il faut voilà, on est sur un territoire où il y a plusieurs cultures, plusieurs productions animales. Il y a plusieurs entreprises. Il y a des on n'a pas tous les mêmes intérêts, mais il y a des intérêts économiques qui sont en jeu pour les exploitations, pour les entreprises, pour les collectivités. Donc ouais, dès que vous mettez le doigt dans ce truc là, algue verte, ça devient quelque chose d'assez vertigineux et qui nécessite beaucoup de discussions, beaucoup de formations, beaucoup de vulgarisation auprès de nos adhérents. Dans l'ensemble, aujourd'hui, je dirais que le message est bien passé. Hein, vous avez toujours quelques moutons noirs dans la campagne qui font encore les choses de travers. Donc là, c'est à l'administration de taper, hein, ça n'a pas de souci. De ce côté-là, je pense qu'au niveau de la profession, on est assez d'accord là-dessus. C'est que les gens qui font les choses de travers, c'est pas à nous aujourd'hui d'aller faire le travail, c'est à l'administration, puisque c'est quand même eux les donneurs d'ordre. Mais donc le message est passé, et puis les techniques sont à mettre en place. On est en train de transiter, on transite, alors certainement pas assez vite, hein, ça on veut bien être d'accord. Les transitions, ça coûte cher. Une transition, ça coûte cher dans nos systèmes de production. Et ça entraîne des erreurs. Ça entraîne des erreurs ou en tout cas des manques à gagner auprès de ceux qui le font, parce que c'est pas toujours facile de changer ces techniques de production. Donc ça nécessite d'être accompagné, ça nécessite d'être compris. Et puis ça nécessite aussi à l'autre bout d'avoir des consommateurs qui jouent le jeu, quoi. Donc voilà, ça, c'est des sujets. Sinon, si on n'arrive pas à travailler, à avoir l'assentiment du consommateur derrière, eh ben ouais, il y aura le risque, c'est d'avoir du découragement. Et puis la solution de simplicité, ce sera ce qu'on commence à voir, c'est dégager les animaux, quoi. Dégager les animaux et végétalisation de la Bretagne. Et alors là, c'est pas sûr que le problème des algues vertes se résolve.
Alors, il y a des solutions, on l'a dit, mais pour ça, il faut travailler ensemble. Monsieur Piriou, donc là, vous représentez France Nature Environnement. Vous étiez, comme l'a dit Daniel Evin tout à l'heure, vous étiez dans les premiers à vous asseoir autour de la table et à essayer de co-construire des solutions pour limiter ces algues vertes. Vous avez la compréhension, effectivement, de ce que vient de dire, je pense, monsieur Kwepel. Maintenant, vous pensez sans doute qu'il y a certains leviers qui seraient encore à manœuvrer de manière un petit peu plus pointue ou plus marquée, peut-être, pour changer les choses.
Oui, d'abord, pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, les études de l'IFREMER ont montré qu'il fallait descendre les concentrations en nitrate très bas pour voir quelque chose sur le terrain. Il faut, par exemple, il y a eu une modélisation qui était faite en baie de Lannion qui montrait qu'il faut descendre à 20 mg de nitrate par litre pour commencer à voir une diminution des algues vertes. Il faudra arriver à 10 mg pour vraiment voir une bonne disparition des marées vertes. Voilà, donc ça, sur la baie de Lannion, les autres, c'est peut-être un peu différent, mais il va falloir descendre très bas. Alors, au sujet des associations, du rôle des associations, Thierry Burlot dit souvent, bah, il devait être aujourd'hui avec nous, il aurait peut-être pu le redire encore. Heureusement qu'il y a eu les associations pour alerter dans les années 90 des dérives, justement, on voyait les nitrates monter. Il y avait des dérives, bon, il y a eu le remembrement, les pesticides, les lisiers qui étaient pendus en trop grande quantité, les engrais chimiques, etc. Les OEVR a alerté au niveau de l'État et au niveau de Bruxelles pour mettre le haut là. Et il y a eu des réglementations qui ont été prises à la fin des années 90. Donc voilà, donc le rôle des associations, c'est aussi d'alerter et de faire en sorte que ça, l'environnement soit de meilleure qualité à la suite. Alors ce que je voulais dire après, c'est les leviers. Alors... moi, je prendrai l'exemple du rapport de la Cour des comptes de 2021, avec lequel on est d'accord, nous, associatifs, qui donne plein de recommandations. Mais bon, déjà, il a été très sévère hein, sur ce qui est fait. Il a dit qu'il faut changer de braquet, etc. Et dans les recommandations, je tiendrai en compte 5. D'abord, il faut mettre plus de budget sur le plan algues vertes. Il a parlé des PSE. Ça se met en place, les paiements pour services environnementaux, l'agence de l'eau les met en place. Très bien. Il a parlé de la réglementation. Il faut plus de réglementation. Les réglementations ZSCE, zone soumise à contrainte environnementale, c'est en place. On verra l'effet en 2025 si vraiment ça met la dynamique pour améliorer les choses. On verra bien, mais c'est lancé. Le troisième, c'est évolution des systèmes. Là, je ne sais pas si vraiment les systèmes vont évoluer, parce que quand même, avec la diminution des agriculteurs, l'agrandissement des exploitations agricoles, donc avec des terres de plus en plus loin, etc., est-ce que les systèmes vont changer à moins d'une volonté politique pour changer ces systèmes, je ne sais pas si ça va se faire. Le quatrième, c'est le foncier. Alors le foncier, ils ont soulevé le problème du foncier. C'est essentiel aussi parce que les élevages bovins, par exemple, s'ils n'ont pas des terres pour pâturer à côté, ben, ils vont faire du maïs très loin. Et voilà, donc ça... on sait bien que le maïs a plus de risques pour le lessivage du nitrate que de l'herbe qui en consomme plus d'azote en plus. Voilà, donc le foncier est essentiel. Dans le plan de lutte contre les algues vertes de 2010, déjà dans le premier, le foncier était soulevé comme solution. Dans le deuxième aussi. Et on voit que ça ne s'est pas bien mis en place et la Cour des comptes le remet en... Donc on espère qu'il y aura des cellules foncières qui vont se mettre en place localement et avec la Chambre d'agriculture, la SAFER, etc. Mais c'est un sujet encore qui reste sous la table. Et le cinquième, alors, c'est le rôle de l'agroalimentaire là-dedans. Ils ont dit, mais l'agroalimentaire est absent. Que fait l'agroalimentaire ? Voilà, donc... actuellement, dans les comités, il y a peut-être des représentants, il y a Yvette, j'ai dit tout à l'heure, mais quelles sont leurs actions, quel est leur rôle là-dedans? À mon avis, l'agroalimentaire a un rôle à jouer qui est très important même au niveau du financement. Parce que, bon, il faut savoir que moi, quand je vais dans un marché ou dans une acheter, faire mes courses, c'est le vendeur qui fixe le prix. Moi, acheteur, j'ai pas mon mot à dire, je paye. Agriculteur, c'est l'inverse. L'agroalimentaire fixe le prix, donc l'acheteur fixe le prix et le vendeur n'a pas son mot à dire. Donc c'est déjà biaisé quelque part. Donc si... Bon, je vais pas changer le monde, hein, mais je constate que c'est comme ça, c'est paradoxal. Si l'agroalimentaire veut jouer son rôle, peut-être que c'est sur le prix d'achat à l'agriculteur qui fait des efforts. Parce que on pourrait imaginer des labellisations dans les territoires à algues vertes pour les agriculteurs qui font des efforts et qui peuvent vendre leurs produits plus cher que les autres qui ne font pas d'efforts, par exemple.
Qui décidera de lequel fait des efforts ou pas? Qui sera capable de...
Ah, je pense que avec toutes les techniques de mesure qui actuellement, le ZSCE justement est là pour mettre en place des recommandations et juger après si elles sont appliquées ou pas. Donc l'État va jouer son rôle là, de savoir qui.
Est-ce que ça infantilise pas un petit peu aussi les...
Comment ?
Est-ce que ça infantilise pas un petit peu les acteurs si c'est toujours le législateur qui doit marquer les sanctions ? Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans quelque chose de plus dynamique quand on évoque la possibilité d'une prise de conscience collective, d'un travail ensemble ?
Il peut y avoir des conventions aussi entre les agriculteurs et l'agroalimentaire. Hein.
Vous disiez vous-même que, à la limite, quand on en parlait, vous parlez du bio. Vous disiez c'est bien d'accompagner les conversions en bio, mais ce qui serait plus intéressant, c'est de les maintenir, puisque certains d'entre vous que j'ai eu au téléphone me disaient qu'aujourd'hui, y en a qui se déconvertissent parce que ça devient trop compliqué, que le pouvoir d'achat n'est pas là. Vous pensez aussi à des taxes sur certains produits, baisser la taxe sur les produits bio. Vous aviez évoqué aussi quelques...
Oui. Là, c'est encore l'État qui doit intervenir parce que c'est les taxes sur les produits bio, c'est l'État. Il faudrait les réduire fortement et peut-être même arriver à zéro pour que le prix du bio se rapproche du prix du conventionnel.
Donc le levier pour le problème des algues vertes serait essentiellement pour vous économique?
Pas essentiellement, mais bon, il y a la prise de conscience, il y a aussi toutes les solutions fondées sur la nature, on en a parlé, hein, sur les bassins versants qui mettent en place les zones humides, le bocage, etc. Donc il y a tout ça à faire, il y a les taxes, le paiement à la conversion en bio. Moi je suis au comité de bassin, alors Bretagne. Ce que j'ai proposé, puisque c'est l'agence de l'eau, en fait, essentiellement, qui paye les conversions, l'aide à la conversion à la bio. Moi, j'ai proposé que ce soit, vu le contexte de la bio actuellement, qu'il y ait même une aide au maintien à la bio, parce qu'il y aura des disparitions, là. Et donc, il faut que... Bon, on disait tout à l'heure, les paysans sont la solution, hein. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut garder les paysans et même le maximum de paysans avec des pratiques qui respectent l'environnement.
Mais les méchants, c'est l'agro.
Non, pas les méchants, mais ils ont un rôle à jouer. Voilà ce que je dis. Et puis la Cour des comptes a trouvé qu'ils étaient pratiquement absents actuellement et ils ont un rôle à jouer.
Je suis obligée de vous laisser réagir. Là, je vois que ça trépigne.
Oui, non, mais on était absent parce qu'on n'était pas invité. On n'était pas forcément autour de table. Concernant le bio, aujourd'hui, c'est un produit qui est comme tous les produits, qui répond aux attentes du consommateur et qui répond à un marché. Et je vais juste prendre l'exemple de notre coopérative. Nous, aujourd'hui, on est engagé depuis déjà très, très longtemps, hein, dans la production biologique. Animal, et végétale, mais je prends l'exemple de la pollution animale, notamment concernant les œufs. Et les œufs, donc on avait une quantité de poules pondeuses qui pondaient des œufs bio, quoi. Normal pour une poule pondeuse, et donc qui répondait à l'attente du consommateur pendant un petit moment, jusqu'au moment où le consommateur s'est détourné de ce produit pour des questions de prix. Et donc nous, vous pensez bien qu'on a des, en tant que coopérative, on a un contrat d'adhésion et un contrat de production avec nos adhérents, et donc on se devait de conserver la rémunération de nos éleveurs et de respecter le contrat. Et donc les œufs étaient déclassés en plein air ou en label, et par contre payés en bio. Donc ce qui représentait quand même un effort financier extrêmement important qui se chiffre en millions d'euros. Et donc nous, industrie agroalimentaire, nous avons supporté la différence du bio, à la différence donc de ce que vous demandez là. Donc l'État, lui, ne l'a pas fait sur les aides au maintien du bio. Donc nous, on l'a fait. Ça nous a coûté, ça nous coûte cher, et ça nous coûte encore cher parce que le problème n'est pas réglé. Et aujourd'hui, on a ce décalage entre le vouloir d'achat et le pouvoir d'achat, et c'est bien dommage parce que franchement, aujourd'hui, il y a des gens qui sont mis dans la panade parce que s'il y a des politiques qui n'ont pas forcément tenu leurs engagements.
Daniel Evin, vous voulez réagir sur aussi cette schizophrénie qu'il peut y avoir parfois entre le citoyen et le consommateur et la réalité de la consommation ?
Oui, je crois que ça a été dit également à la première table ronde. C'est avec tout ça qu'il faut qu'on compose. Et on a imaginé, dans le premier plan Algues Vertes, on a dit, puisqu'on aura, nous, un certain nombre de contraintes supplémentaires ou des pratiques différentes, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas effectivement cochon issu d'un BV Algues Vertes, lait issu et payé différemment? Mais la vraie vie, ça ne s'est pas fait. La vraie vie a fait que ça ne s'est pas fait. Voilà. Donc, je crois qu'il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on avance beaucoup, sur lesquelles on peut encore avancer. Ça s'appelle, on l'a dit tout à l'heure, ça s'appelle l'agronomie. Ça s'appelle l'excellence, essayer par l'innovation, par la technologie, par le foncier. Moi, j'y ai cru beaucoup aussi au foncier. J'ai fait des tas de réunions pour dire à mes collègues et travailler avec mes collègues sur les regroupements parcellaires. Ça se fait, ça se fera, mais c'est très très long. Et puis c'est les histoires familiales qui font que des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Ça se fera aussi parce que le prix de l'énergie fait aujourd'hui réfléchir, parce que l'eau, ça fait réfléchir. Donc les choses bougent. Je ne crois pas beaucoup à certaines préconisations de la Cour des comptes. Voilà. Mais je crois beaucoup à ce qui se passe localement. Et nous, moi, j'ai aussi pris à ce moment-là un autre chemin qui était celui de parler directement aux consommateurs. Et Agriculteurs de Bretagne est né de tout ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut parler aux consommateurs pour que... D'abord aux Bretons et aux Bretonnes, d'abord parler de fierté d'être agriculteur et agricultrice, d'abord parler de nos métiers et maintenant parler aux consommateurs de son acte d'achat, de ses actes d'achat, de ses choix, les choix qu'il peut faire. C'est un autre chemin aussi. Certes, c'est des petits cailloux, c'est des petits moments d'échange, mais on peut penser que depuis une dizaine d'années qu'on le fait, quand on rencontre les consommateurs bretons, bretonnes et même autrement, quand on fait les marchés l'été, on amène à réfléchir sur ce qu'on fait quand on pose un acte d'achat et ce que ça peut entraîner pour des agriculteurs et des agricultrices comme nous. Donc c'est aussi une autre voie. Donc, à laquelle moi je crois beaucoup parce qu'elle est très enthousiasmante, parce qu'on voit là aussi la reconnaissance de notre métier, de ce qu'on fait, de ce que l'on peut faire dans nos exploitations. Et aussi sur des bassins algues vertes, de mieux expliquer ce que c'est que le phénomène des algues vertes.
Alors, pour augmenter cette audience-là, vous parliez tout à l'heure des médias. Moi, je veux juste quand même rétablir c'est souvent les médias parisiens qui
Alors,
vont...
je voulais le dire, ouais. Quand je parle de médias, évidemment, c'est pas la peste...
la PQR, quotidienne régionale.
Quotidienne régionale, évidemment. C'est évidemment pas la presse professionnelle. Mmh. C'est effectivement quelques médias nationaux. Mmh.
Oui, c'est ce côté, aujourd'hui, l'information
distance,
va très vite. Oui,
distance.
Puis ce qui fait les lanceurs d'alerte, hein, oui. on en discutait entre nous en disant oui. qu'aussi il y avait une tendance, c'est pas ce que je veux dire, c'est très bien qu'il y ait des sentinelles et c'est très important, mais autour du débat des algues vertes, on assiste actuellement en coulisses à un débat de « c'est moi qui l'ai vu le premier, c'est moi qui l'ai dit le premier ». Qui est un peu triste quand même. Le sujet maintenant, comment on avance ensemble, je vous écoute et savoir comment chaque acteur est un maillon de la chaîne, hein, si je comprends bien.
Tout à fait. Pour moi, il y a des vrais. Je pense notamment à une lanceuse d'alerte, ce docteur qui a parlé du médiator.
Ouais.
Voilà, ça, pour moi, c'est une lanceuse d'alerte. Voilà, les algues vertes, c'est connu depuis combien, Sylvain ? 60 ans ? 40 ans ? Bon, aujourd'hui, on n'est plus lanceur d'alerte quand on parle des algues vertes, je ne pense pas. Il y a un autre élément que M. Piriou peut-être ne citait pas, que je pense qui est important, et Jean-Luc l'a souvent dit aussi, c'est il y a le côté préventif, mais il y a aussi le côté curatif. On parlait de la valorisation des algues. Je crois avoir vu dans la presse que certains aujourd'hui se posent la question de faire des planches avec des algues vertes. Pourquoi est-ce qu'en Bretagne, on ne peut pas parler de cette valorisation des algues vertes ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, à un moment, utiliser ça et notre intelligence, avec plein de gens qui savent peut-être certainement mieux que moi, parlons aussi de ce côté-là.
C'est ce que j'attendais, Sylvain Balluc, que vous nous parliez un petit peu des algues vertes, certes, mais des autres algues aussi, de cette ressource, cette manne qu'on a.
On ne va pas tout faire.
Non, mais donnez-nous quand même quelques pistes, certaines quand même.
Non, je voulais d'abord, en fait, j'ai pris le micro juste avant que vous fassiez la transition, parce que j'aurais voulu, mais ça va faire une transition avec ce que disait Jean-Luc Barbeau tout à l'heure. On parlait du ramassage de l'année dernière, on parlait de 6500 tonnes. Il faut quand même, pour refixer un peu les ordres d'idées, donc je vous ai parlé des suivis surfaciques qu'on fait, mais de temps en temps, on fait des mesures en biomasse. Quand on évalue la biomasse à un instant T sur la baie de Saint-Brieuc, on a souvent mesuré 20 000 tonnes présentes à un moment donné. Et on en ramasse, sur le cumulé de l'année, 6500 tonnes. Il faut voir que le taux de croissance des algues, c'est dans les bonnes conditions, elle pousse à 20%. Donc simplement pour recadrer un peu, pour dire, si on enlevait tout un jour donné, il faudrait enlever 20 000 tonnes. Bien sûr, on n'a pas les outils pour, parce que c'est des dépôts qui sont... Ce qu'on ramasse, ce n'est que le dépôt de haute plage qui risque de pourrir et qui est en andin ramassable. Mais tout ce qui est dépôt plus fin sur le bas de l'Estran, nous, quand on fait des mesures, c'est à marée basse de grands coefficients, et on voit toutes les algues sur les 3000 hectares de découverts à peu près à marée basse. Donc, c'est des énormes surfaces. Et si on voit que cette présence d'algues, si on voit le cumulé qui va pousser chaque jour, donc on est sur des volumes qui sont très importants. Alors, la valorisation des algues, c'est des algues vertes en particulier, c'est des choses qui sont réfléchies depuis longtemps, hein, notamment dans le cadre de ProLittoral. Avant les programmes dont on parle, hein, il y a eu un programme qui s'appelait ProLittoral dans les années 2002, 2003, 4, 5, 6, soutenu par la région, les quatre départements et l'agence de l'eau, qui était là pour initier les actions de bassin versant. Il y a eu des premiers programmes de bassin versant pour lancer ces suivis dont on parle. Donc il faut rendre hommage un peu aux collectivités qui ont financé tout ça, parce que c'est grâce à ça qu'on peut, avec précision, dire comment évolue le phénomène. Parce que si on n'avait pas ces outils un peu précis, on pourrait dire n'importe quoi et on avancerait un peu dans le brouillard. Donc c'est grâce à ces suivis qu'on a ces connaissances précises de l'évolution du phénomène. Donc la valorisation dans ce cadre-là a été réfléchie aussi dans ces années-là. Il y a eu plusieurs programmes qui ont été financés pour essayer de voir quelles étaient les possibilités de valorisation, donc les filières qui peuvent accepter, dans lesquelles on peut espérer de la valorisation. On arrive quand même souvent à un verrou technique, qui est le fait que l'algue verte qu'on ramasse, elle est d'une qualité inégale. Donc ça veut dire que de temps en temps, il y a plein de sable. Elles sont quelquefois un peu pourrissantes. Donc la matière, comme elle est ramassée, ce n'est pas exactement la matière rêvée pour faire de la valorisation. Alors bien sûr, la valorisation, on peut faire plein de choses. On fait des crèmes à base d'algues. On peut faire, là on parlait de planches de surf, on va mettre quelques kilos, quelques grammes dans une planche. Mais, donc il y a des filières qui ont été réfléchies, mais il n'y a aucune filière qui permettait, entre guillemets, d'absorber les volumes en question, ou alors c'est qu'il n'y a même pas assez, parce que quand on voit ensuite sur des filières qui seraient plus protéines, par exemple pour l'alimentation du bétail, là on est à des échelles ridicules parce que les tonnes dont on parle, ce qui est ramassé actuellement, c'est bien trop faible par rapport à ce qu'il faudrait pour substituer des, enfin pour faire de l'alimentation animale par exemple.
Le problème c'est le volume ou c'est qu'on n'a pas alors, encore trouvé les techniques pour la transformer.
Le gros problème, donc je parlais un petit peu des différentes voies qui avaient été screenées, enfin qui avaient été observées. Et après, le gros problème qu'on avait, c'était surtout la stabilisation de la matière, parce que la matière est à la fois inégale en qualité et puis elle est surtout très inégale en quantité. C'est-à-dire que vous allez ramasser certaines semaines 2-3 000 tonnes sur un site. Pendant plusieurs semaines, vous n'avez rien. Alors, il y a une saisonnalité évidente. Hein, on sait bien, c'est à partir de mai, juin, juillet qu'on commence à en avoir beaucoup. Mais certaines années, en juillet, il n'y a plus rien. D'autres années, il y en a plein. Donc, pour une filière, gérer ses à-coups est quand même très compliqué, surtout qu'on ne sait pas la stabiliser. C'est bien le problème quand on parle des gaz de décomposition, c'est que l'algue verte, une fois qu'elle est échouée, si on ne la traite pas très vite, elle va tourner et elle va générer, donc en anaérobiose, elle va générer du H2S, qui est un gaz toxique et dangereux. Donc, la stabilisation, c'était vraiment un des nœuds qui faisait que, d'un point de vue logistique, on ne savait pas trop quoi faire. Et aussi, bah, c'est des algues qui sont pleines d'eau. Hein, quand on parle d'une tonne d'algues vertes, c'est, enfin, des tonnes dont on parle, elles sont dégoulinantes d'eau, c'est donc transporter de l'eau. Donc pour la stabiliser, soit il faut la déshydrater complètement et il faut beaucoup d'énergie, ou alors de surface pour faire du préfanage ou autre, mais ce n'est pas très simple. Ou alors la congeler. Actuellement, il y a des filières qui utilisent des algues en les congelant, mais alors ça suppose aussi beaucoup d'énergie et d'infrastructures. Donc il y a éventuellement des grandes possibilités pour l'algue verte et pour d'autres algues pour rentrer dans des filières. On parle aussi des matériaux. Les biomatériaux sont alors les substitutions au plastique. Il y a plein de choses qui sont réfléchies. Vous avez peut-être entendu différents sujets là-dessus. Mais il y a vraiment, on bloque quand même souvent sur l'aspect logistique. Alors après, il y a eu aussi éventuellement des levées de boucliers de certains qui ne souhaitaient pas rentrer dans cette filière de valorisation parce que ça pose des problèmes éventuellement de se dire on va mettre en place artificiellement une filière qui ensuite devra perdurer. Donc moi, j'y crois pas trop. Enfin, je pense pas qu'il y a de telles aspirations à se débarrasser des algues là où elles sont sur les plages, que je pense pas que ce serait vraiment l'obstacle principal. Mais ça a freiné certains. Je sais qu'à certains secteurs voulaient se lancer dans un ramassage amélioré, voire dans des filières de valorisation. Et il y a eu un peu un haut là en disant si nous élus on cautionne, enfin nous, c'est pas moi, hein, je suis pas élu, mais si les élus cautionnent ce genre de filière, ils risquent d'avoir un petit peu des retours de bâton parce qu'ils vont entre guillemets favoriser, comment dire, on va masquer le symptôme plutôt que de.
C'est compliqué aujourd'hui de valoriser une innovation autour de l'algue verte dans un contexte où en permanence on réactive. Les vieux démons, la désignation de coupables, et voilà, on le voit bien. Donc peut-être qu'il y a, enfin c'est ce que je comprends, il y a des exemples dans d'autres régions de d'algues invasives comme ça, comme au Japon, des solutions se trouvent, mais l'opinion publique aujourd'hui n'est pas non plus très favorable, on le sent, sur cette valorisation d'algues vertes et plus globalement de l'algue.
L'algue a une bonne image d'une manière générale. Enfin, je pense pas qu'il y ait un problème, ou alors sinon, il faut qu'on fasse plus de com, parce que on pense que, enfin, l'algue est un très bon matériau pour beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup d'applications. Les algues sont des produits naturels, biosourcés. On peut faire plein de choses. Après, l'algue verte est un peu le symptôme. Enfin, on a parlé que de ça, d'un dysfonctionnement de l'écosystème. Donc, elle a peut-être une autre image, mais je pense pas que ce soit un obstacle à sa valorisation. Je pense que les obstacles, ils sont plutôt ce que j'ai essayé de décrire, donc dans la logistique, et puis une fois qu'on ramasse l'algue comme on la ramasse, c'est déjà trop tard, c'est-à-dire qu'elle a déjà généré une nuisance. Et c'est vrai que moi, j'aime pas trop quand on mélange les deux dossiers en disant c'est un sujet qui, là, pour le coup, dans les médias, était souvent très plébiscité, c'est dire on transforme le plomb en or, donc un déchet qui nous pose plein de problèmes, d'un coup, ça devient une solution. Je pense que ça se fait pas tout à fait comme ça, parce que quand on parle des proliférations et des dégâts environnementaux qu'elles génèrent, le ramassage de cette nuisance ne va pas générer une solution en soi. Ça, on va éventuellement pallier à la difficulté qu'on a encore pour l'instant à générer l'algue une fois ramassée. C'est-à-dire que pour l'instant, on la ramasse et une fois qu'elle est ramassée, il faut la traiter. Donc, il faut soit des plateformes, soit de l'épandage. On en a un petit peu parlé. Donc, on a encore des coûts qui viennent qui viennent encore gréver les budgets des collectivités une fois qu'on les a ramassés. Donc, c'est sûr que par des innovations, enfin si on avait des débouchés à ces algues vertes dans l'industrie, on pourrait au moins supprimer cette nuisance. Mais c'est ce qui est un petit peu fait avec, il y a un acteur actuel, enfin Holmix, qui utilise déjà des algues vertes dans ses filières, mais ils sont loin d'arriver, enfin Jean-Luc Barbeau pourra peut-être en parler mieux à propos de la baie de Saint-Brieuc, mais pour l'instant ils arrivent à prendre un camion de temps en temps qui leur permet de fabriquer leurs produits dont ils... Enfin, la voie de valorisation qu'ils ont choisie, mais on est loin de ramasser, enfin de pouvoir valoriser toutes les algues qui sont ramassées. Il y a certains jours, ils peuvent venir avec leur camion, et puis les autres jours, la collectivité doit gérer le problème tout seul et donc avoir des plateformes pour pouvoir de façon autonome traiter les algues une fois qu'elles sont ramassées.
Donc la matière elle-même est instable pour pouvoir effectivement leur rentrer dans un process de revalorisation et j'imagine vous confirmez ce qui est instable aussi, c'est ces quantités à gérer en fonction de tous les facteurs qu'on a évoqués.
Oui, et puis là, bah, c'est vrai que la valorisation elle est anecdotique en baie de Saint-Brieuc, hein. Holmix en prend un peu, mais moi je ne ferai pas le pari de la valorisation. Le pari, alors je ne fais pas le pari de l'éradication des algues vertes en baie de Saint-Brieuc, mais je fais le pari d'un abaissement notable du phénomène. Voilà, aujourd'hui on a des plages où il y a des plages qui sont fermées, là, encore de retour. Ce sont des plages qui sont les portes d'entrée dans une réserve naturelle nationale. Vous voyez un peu où on se trouve, là, dans quelle situation on se trouve. Et ces plages-là, aujourd'hui, il y a des algues vertes déjà, parce que là, on est à 300 ou 400 tonnes qui ont été ramassées. Ils sont déjà en putréfaction. Les plages sont fermées. Donc, voilà, on pourra les valoriser, mais ça existera toujours. Alors, par contre, j'ai vu un reportage sur les sargasses. Alors, je ne sais pas si c'est applicable.
C'est à ça que je pensais tout à l'heure, quand je disais qu'il y avait d'autres problèmes ailleurs.
Je ne sais pas si c'est applicable en baie de Saint-Brieuc, mais vous savez qu'on va tester en baie de Saint-Brieuc un petit bateau ramasseur. Là. Et ben, j'ai vu ça aux Antilles. Là, ils ont plein de petits bateaux ramasseurs et ils vont décharger ça dans un... Alors, je ne sais pas si c'est un bateau, un gros bateau. Et une fois qu'il est plein, le gros bateau, il va au large, il ouvre le fond et il loge tout dans le fond. Mais alors, je ne sais pas si c'est...
Je sais donc pas on si déplace c'est... le problème. Très bien.
Il faudra choisir l'endroit.
Non, parce qu'il paraît que les
sargasses, ça a l'air d'être un phénomène qui est encore pire que
les algues. Non, mais il paraît que ces algues-là sont larguées dans une fosse. Et donc, à partir de là, plus de lumière, plus d'oxygène. Donc,
ce sera un autre débat. On fera le retour. Les sargasses, quel chemin collectif?
Juste pour... En deux secondes, pour embrayer sur les sargasses, c'est vrai que les sargasses, alors, aux Antilles, ils se sont inspirés un peu de ce qu'on faisait en Bretagne. Ils nous ont interrogé sur les collectivités, sur la façon de gérer le problème en Bretagne, la façon de gérer la toxicité, etc. Et ensuite, ils ont pris beaucoup d'avance. Il y a eu pas mal de moyens financiers qui ont été dégagés, et notamment sur des moyens de ramassage. Alors peut-être aussi parce que, quelque part, ils ne peuvent rien faire d'autre que subir, parce que c'est des algues qui sont produites au-delà et qui viennent s'échouer. Ils ne peuvent pas avoir des actions locales pour limiter l'échouage sur leur plage. Après, en termes de... l'algue elle-même ne flotte pas, n'a pas les mêmes caractéristiques que les ulves. Donc, pour le coup, elle est beaucoup plus facile à ramasser parce qu'elle flotte en surface. Donc, on peut la collecter. Il y a des petits flotteurs qui... les algues elles-mêmes ont une flottabilité importante. Donc elles peuvent être arrêtées par des barrages flottants, elles peuvent être ensuite ramassées de cette manière, et ensuite éventuellement immergées au fond. Mais alors ça c'est assez expérimental, et puis ça peut être remis en question à tout moment. Et pour les algues vertes, ça ne se passera pas comme ça, de façon aussi simple, parce que on n'a pas encore un bateau qui marchera bien. Là où on voulait les ramasser, c'est ce qu'on appelle le rideau, mais c'est un endroit qui est la transition entre la zone d'Esran et la pleine mer. C'est l'endroit où on a simplement 20, 30, 40 cm d'eau, où les vagues, le ressac, en fait, remet des algues en suspension, donc elles sont entre deux eaux. C'est-à-dire que c'est le seul endroit où elles n'ont pas de sable. Historiquement, on a fait beaucoup d'essais, alors notamment en baie de la Fresnaye, des essais historiques pour essayer de ramasser les algues vertes qui étaient déposées sur le sable. Mais à chaque fois qu'on ramasse avec des outils type brosse ou au racloir, on va avoir beaucoup d'accumulation de sable dans ce qu'on enlève. Donc c'est vrai que d'un point de vue environnemental, on ne trouvait pas ça correct. Et en plus, on a le problème de l'écrasement de l'estran et donc des dégâts sur la faune benthique, sur les coquillages, etc. Donc là, on est passé à l'autre idée qui est de les ramasser une fois qu'elles flottent. Mais alors flotter, on sait le faire quand il y a 2, 3, 4 mètres d'eau. Quand on n'a que 20 cm d'eau, arriver à avoir un outil qui ramassera des grosses quantités, mais dans une si petite lame d'eau, on a des problèmes il va talonner. Enfin, donc c'est un milieu qui est très compliqué pour ramasser, mais il faut continuer. Donc il y a des premiers essais qui ont été faits. On espère qu'ils vont se poursuivre et qu'on arrivera à quelque chose. Mais c'est quand même... ça sera compliqué. Et puis même si on avait des énormes moissonneuses qui savent ramasser, si on se projetait en disant qu'on trouvait l'outil qui marche bien et qui... Ben, quelque part, c'est pas non plus le rêve d'avoir des baies qui soient pleines d'outils, qui ramasseraient toute la journée. Enfin, c'est des lieux, a priori, qui sont pas tout à fait dédiés à ça.
Donc l'idée, c'est vraiment plutôt de réduire la production. Vous vouliez réagir,
Oui,
Sibérie.
Pour... ça marche, oui.
Oui.
Pour faire la comparaison, sargasse, marée verte... Alors, en fait, l'impact est à peu près le même, puisqu'on voit bien que les sargasses s'accumulent sur les plages des Antilles et produisent aussi de l'H2S, comme les marées vertes en Bretagne.
Par contre, les sulfate d'hydrogène, non ? H2S, c'est ça ? Non ?
L'hydrogène sulfuré,
oui. Oui, l'hydrogène sulfuré,
oui. Oui. Par contre, les causes et remèdes ne sont pas les mêmes du tout. Pour les sargasses, les causes se situent sur l'Amazonie, avec la déforestation, etc., les cultures qui se mettent en place. Et il y a un transport par de l'Atlantique qui fait que peut-être le changement climatique a changé les courants aussi, qui fait que ça s'échoue maintenant aux Antilles et ça va continuer. Parce que, donc, cause et remède au Brésil en particulier, c'est pas la même chose qu'algues vertes en Bretagne. Cause et remède sont en Bretagne. L'impact est en Bretagne, cause et remède sont en Bretagne. Donc, c'est à nous de trouver ensemble les remèdes. Et voilà, on est là tous ensemble, mais j'espère qu'on trouvera ensemble.
Ainsi s'achève ce podcast centré sur la table ronde Algues Vertes, quel chemin collectif pour la Bretagne ? À bientôt pour un nouvel épisode du podcast de la Commission Agriculture et Société.